Le monde vivant dans lequel nous évoluons est un monde de lutte incessante pour la survie. À chaque instant, les êtres vivants doivent se battre pour se défendre contre un nombre très important d'agressions en tout genre. Aucune espèce n'est épargnée par ce combat pour la survie. Une discipline s'intéresse justement aux mécanismes qui permettent de comprendre quelles sont les réactions de défense de l'organisme. Il s'agit de l'immunologie. Un de ses plus grands spécialistes publie aujourd'hui chez Odile Jacob « Le jeu du hasard et de la complexité, la nouvelle science de l'immunologie ». Il est l'invité de la Tête au Carré, Philippe Pourilski. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue, je suis très heureux de vous accueillir pour la première fois dans la Tête au Carré, à l'occasion donc de la sortie de cet ouvrage dans lequel vous expliquez le monde très complexe de l'immunologie, avec ce système immunitaire qui occupe quand même de 15 à 20% du volume total de notre corps. On va découvrir avec vous quelles sont les différentes stratégies justement que la vie a mis en place pour lutter contre ces agresseurs. Et on va évoquer avec vous des exemples de défense d'organismes dans la nature. On parlera évidemment du système immunitaire chez l'homme avec nos défenses naturelles et le moment également où ces défenses se retournent contre l'organisme. On se retrouve dans un instant, Philippe Pourilski, avec les auditeurs qui nous rejoignent. Les questions sont en direct, franceinter.fr et sur les réseaux avec le hashtag l'attaque. Et puis nous terminerons l'émission avec le quiz scientifique. Deux nouveaux candidats vont s'affronter. C'est Violaine Ballet qui réalise cette Tête au Carré. Dossier concocté aujourd'hui par François Mercier.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Philippe Hénarejos. Dans notre rendez-vous astronomie du mercredi, il est question d'inflation aujourd'hui avec vous.
Oui, il n'y a pas que les économistes qui parlent d'inflation et qui d'ailleurs ne la voient pas pour l'instant. Les cosmologistes aussi ont du mal à la voir. Et pourtant, celle-ci est nécessaire à la théorie qui raconte le mieux toute l'histoire de l'univers, c'est-à-dire le Big Bang. Le Big Bang, ça marche mieux avec l'inflation. Mmh. Alors, vous vous souvenez peut-être, au mois de mars dernier, de l'annonce qui avait été faite par une équipe américaine utilisant un télescope un peu spécial situé en Antarctique. Cette expérience, appelée Bicep 2, Bicep 2 pour les Américains,
yes, sir.
leur permettait d'avancer qu'ils avaient observé sur une petite portion de ciel les effets d'ondes gravitationnelles primordiales.
Oui, ça mérite un petit rappel quand même pour dire ce que sont les ondes gravitationnelles,
absolument.
Philippe.
Il s'agit de déformations de l'espace-temps provoquées par la forte accélération d'un objet très massif. Par exemple, si vous avez deux étoiles à neutrons qui se tournent autour l'une autour de l'autre à des vitesses un peu folles, cela forme des ondes gravitationnelles. Eh bien, dans le cas du Big Bang, il y a théoriquement un événement, l'inflation donc, qui est survenu dans les premières fractions de secondes qui ont suivi la fameuse explosion primordiale. L'inflation est une phase incroyablement rapide au cours de laquelle l'univers ne s'est pas contenté d'être en expansion, mais il s'est mis à enfler d'un coup d'un facteur 10 puissance 26 au moins. C'est tout à fait impossible à concevoir. Et cet événement a dû laisser une trace dans la première lumière de l'univers observée aujourd'hui par les astronomes. Des ondes gravitationnelles, donc, dites primordiales, parce qu'elles viennent de l'inflation et non pas de simples couples d'étoiles à neutrons dont je vous parlais tout à l'heure.
Et ce sont ces ondes qu'on aurait observées là, Philippe ?
En tout cas, c'est ce qu'avait annoncé l'équipe américaine de Bicep 2 au mois de mars. Mais comme toujours en cosmologie, les observations sont très difficiles. Et une partie de la communauté des spécialistes avait émis des doutes sur la fiabilité du résultat. Notamment parce qu'on observe la première lumière de l'univers à travers notre galaxie qui est remplie de poussière interstellaire. Or, ces poussières, pour faire simple, altèrent le rayonnement primordial de l'univers, de sorte que si on veut y dénicher les petites fluctuations correspondant aux fameuses ondes gravitationnelles primordiales, il faut soigneusement soustraire les effets trompeurs de cette poussière.
Il faut faire le ménage, quoi, en gros. Hein.
Voilà.
Est-ce que c'est ce qu'ont fait justement les scientifiques de Bicep 2 ?
Non, justement non. Ils avaient en quelque sorte décidé d'attribuer à la poussière un effet qu'ils jugeaient raisonnable. Tout simplement, c'est pas parce qu'ils sont négligents, hein, c'est tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les moyens de la mesurer à ce moment-là. Or, il existe un instrument capable de mesurer cela, c'est le satellite européen Planck. Là encore, flashback, en mars 2013 cette fois, c'est ce satellite qui a produit la carte la plus détaillée de la première lumière de l'univers. Donc, les cosmologistes européens de Planck viennent de sortir un résultat essentiel, la carte du ciel de la poussière interstellaire.
Ouais, et alors, qu'est-ce qu'elle montre, cette carte, alors, avec plein de poussière ?
Alors, deux choses. D'une part, que l'endroit scruté par Bicep 2 est très moyen. C'est-à-dire que, en gros, l'effet trompeur de la poussière sur la première lumière est au moins aussi important que celui que formeraient les ondes gravitationnelles primordiales.
Non négligeable. Hein, donc,
voilà. Donc, pour résumer, quasiment impossible de dire ce qu'on voit.
Ouais.
Peut-être Biceptou a vu la trace de l'inflation, peut-être pas. Alors, deuxième chose annoncée par Planck, c'est qu'il existe des régions célestes peu affectées par la poussière galactique. C'est l'intérêt de cette carte. Et donc, on sait maintenant où il faut regarder pour chercher cette preuve de l'inflation, ces fameuses ondes gravitationnelles. Alors, les équipes de Planck et de Biceptou... Ouais.
Parce que les Européens ont un peu taclé les Américains, quand
voilà,
même, au passage.
C'est un peu ça,
hein.
passage.
C'est la petite guéguerre. Hein.
La petite guéguerre.
Voilà.
Et les Américains avaient essayé de devancer les Européens aussi.
C'est vrai.
Hein. Donc, maintenant...
Ils bossent ensemble.
Maintenant, ils bossent ensemble, voilà. Ils travaillent ensemble. Et d'ici quelques semaines, peut-être quelques mois, on attend les résultats de leurs études respectives, avec peut-être à la clé, enfin, la preuve observationnelle de l'inflation. Ce serait une preuve de plus pour le Big Bang, comme une théorie bien ancrée maintenant.
Merci beaucoup, Philippe Hénarejo. Sophie Bécherel nous a rejoint. Bonjour, Sophie.
Bonjour, c'est génial, ce feuilleton des ondes gravitationnelles.
Ouais,
hein. Pour vos auditeurs fidèles, ils ont eu toutes les...
Tous les épisodes.
Tous les épisodes, ouais. Et il y en aura d'autres.
Vous nous avez rejoint, Sophie, pour nous annoncer le nom de la médaille d'or du CNRS.
Ah, vous me laissez le soin de le faire. Gérard Berry, l'informaticien, vient en effet de recevoir la plus haute distinction scientifique française. Gérard Berry est depuis 2 ans titulaire de la chaire d'informatique au Collège de France. C'est un homme que la vulgarisation, pour qui la vulgarisation importe beaucoup.
Ouais.
Spécialiste de la programmation, le langage STL qu'on trouve aujourd'hui dans les avions de chasse Rafale, c'est lui, figurez-vous. Il a aussi travaillé sur la conception de circuits intégrés, sur la programmation d'objets connectés, la coordination des activités du web. Et maintenant, il s'intéresse beaucoup à la musique et aux neurosciences. Et vous voyez, il va aussi dans ses...
C'est un curieux de nature.
Voilà. Je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, évidemment, je lui ai demandé ce que ça lui faisait.
Il venait juste de l'apprendre. Hein.
Tout à fait, il venait tout juste de l'apprendre.
C'est une consécration pour moi et pour ma discipline, c'est sûr. Mais ma première réaction, c'est que j'en suis très content, bien sûr. Et puis que je la dédie à tous les gens qui ont bossé avec moi ou dans le domaine, hein, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Je pense que la reconnaissance de l'informatique comme discipline scientifique majeure est maintenant assez établie, que ça l'établit, ça la, c'est une punaise dessus, quoi. Ça la montre très fort. Et donc, voilà, j'en suis très très content, bien sûr.
Gérard Berry a aussi beaucoup œuvré pour que l'enseignement de l'informatique entre au lycée.
Oui.
Il n'y a que les tout débuts, mais vous voyez, vous verrez, ça viendra.
Voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique, qui est déjà venu à plusieurs reprises dans l'émission. On espère le recevoir très rapidement. Donc Gérard Berry, médaille d'or du CNRS.
2014.
Voilà, et c'est un copain de notre invité, Philippe Kourilski, qui le remercie dans son livre. Hein, Philippe Kourilski.
Absolument, et bravo pour Gérard Berry, je suis très très heureux pour lui. Et comme Gérard Berry m'a donné quelques pistes pour réfléchir l'algorithmique, puisque c'est sa spécialité, de l'évolution des espèces, j'ai travaillé là-dessus et donc je le remercie dans mon ouvrage.
Voilà, et c'est vraiment la rencontre entre la biologie donc, et les algorithmes.
Hein. Et les algorithmes,
voilà.
Absolument.
Maintenant, les disciplines vraiment ont besoin d'elles pour avancer, faire de nouvelles découvertes.
Tout à fait.
Voilà, Gérard Berry, médaille d'or 2014 du CNRS. Merci Sophie Bécherel, merci Philippe Hénarejos, pardon, je vais y arriver. Et dans un instant, Philippe Kourilski, notre invité pour parler d'immunologie. Who are you, The Who, à l'instant sur France Inter.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Philippe Kourilski, vous êtes donc notre invité cet après-midi. Vous êtes biologiste, immunologiste, pour être tout à fait précis, professeur émérite au Collège de France. Vous avez occupé la chaire d'immunologie moléculaire, vous êtes membre de l'Académie des sciences. Et donc aujourd'hui même sort aux éditions Odile Jacob Le jeu du hasard et de la complexité, la nouvelle science de l'immunologie. On va dire que c'est un grand voyage au cœur de la survie du monde vivant. On en parle avec vous, avec les auditeurs qui nous rejoignent pour vous poser des questions, franceinter.fr et le hashtag l'attaque. L'immunologie, c'est une discipline récente ?
Oh, c'est une discipline qui est née avec Louis Pasteur. Quand on a découvert les microbes, qui sont quand même les grands absents de notre vision du monde, hein, l'immunologie a démarré avec la défense contre les microbes. Et l'un des pères de l'immunologie, c'est Eli Metchnikoff, qui a découvert chez l'anémone de mer des macrophages, ces cellules qui mangent les microbes.
Oui, alors justement, vous dites que l'immunologie, c'est d'abord une discipline très particulière, assez compliquée, fermée sur elle-même, avec un langage assez opaque. Hein, vous dites que ça jargonne beaucoup. C'était pour vous l'occasion justement de mettre un peu de lumière sur cette discipline et de nous en expliquer un peu les tenants et les aboutissants ?
Oui, tout à fait. Vous savez, toutes les sciences jargonnent. Et le Big Bang, il jargonne aussi un petit peu, hein, quelque part.
Vous avez entendu hein, tout à l'heure. Oui. Bon.
Et donc, si vous voulez, avec le temps, les choses se clarifient. Et il y a un moment où une clarification permet réellement d'entrer relativement simplement dans le domaine scientifique. Et c'est le cas de l'immunologie, à condition, je pense, de l'élargir et d'en faire la science de la survie.
Oui. Pourquoi alors cette idée de la survie, précisément ? Parce qu'on est dans le monde vivant, donc c'est quoi ? C'est un phénomène inéluctable, en tout cas ?
Ben, écoutez, vivre ne suffit pas, il faut survivre. Voilà. Mmh. Donc on peut prendre l'exemple très triste hein, des bébés bulles. Des enfants qui naissent avec une mutation dans justement qui empêche le système immunitaire de fonctionner, pour les empêcher de mourir, on les mettait dans des bulles pour les protéger. Donc ils vivent, ils ne survivent pas. Bon. Tout le monde est en survie par rapport à la vie. Et quand on voit les choses sous cet angle, ça a deux conséquences. La première, c'est de mesurer à quel point les dispositifs qui interviennent dans la survie sont importants dans le corps humain. C'est en gros, c'est pas rien, hein, comme vous l'avez dit, c'est 15-20%
du volume du corps humain,
du volume et des moyens du corps humain.
Mais qu'est-ce qu'on compte alors dans ces 15-20%
Dans ces 15-20%, on compte une bonne partie de la circulation sanguine, on compte la circulation des lymphocytes dans la lymphe, on compte des organes comme la rate, les ganglions, on compte le thymus, on compte également le fait que dans chacune de nos cellules, il y a des dispositifs de défense. Donc vous avez une énorme activité de défense qui est disséminée dans tout l'organisme et il est, à vrai dire, difficile d'en chiffrer le volume, sauf de vous dire que c'est très important.
Oui, donc il y a vraiment beaucoup de place mobilisée pour cette survie, hein, puisqu'on peut le dire comme ça, et la part de nos gènes également, hein, qui sont dédiés au système immunitaire, très importante part.
Ben, la part de nos gènes dédiés au système immunitaire, on a 25 000 gènes, hein, et la part des gènes, c'est 6, 7, 8%, mais sans compter tout ce qui sert de support et qui permet à ces gènes de fonctionner. Donc, ouais. C'est une part très importante.
Alors, on connaît bien maintenant quand même le système immunitaire, au moins ce terme, hein, c'est bien ouais. Passé dans le langage courant. On a le sentiment que c'est un petit peu quoi, l'allié de notre organisme, on pourrait dire les choses comme ça ? Le bouclier ?
Oui, c'est plutôt le bouclier. Mais vous avez raison, il faut le voir aussi comme un allié de l'organisme. C'est quelque chose qui est en interface avec le monde extérieur, mais également, ce qui n'est moins évident, en interface avec le monde intérieur.
Ouais. C'est-à-dire que... Notre propre monde, hein, au
notre
fond.
Notre propre hein, monde.
Celui que nous habitons.
Celui qui nous habite, oui. Ouais. Et incidemment, dont nous n'avons pas la moindre conscience. C'est assez extraordinaire de penser qu'on est habité par un mouvement perpétuel de milliards de cellules qui bougent sans arrêt dans tous les sens. On n'en a absolument aucune conscience. Et le problème du système immunitaire et des problèmes de survie, c'est qu'au fond, c'est le problème des trains qui arrivent à l'heure, si vous voulez. On ne s'en rend pas compte jusqu'au moment où ça ne va plus. Bon. Et au moment où ça ne va plus, c'est le moment où on tombe malade. Mmh. On tombe malade d'une infection, d'un cancer. Voilà. Et donc, on ne se rend pas compte de l'énorme travail permanent qui est fait pour corriger toutes les erreurs des dispositifs.
Parce que soit le train arrive en retard, soit il déraille carrément.
Voilà.
Hein, dans le cas de certaines pathologies, comme le cancer par exemple.
Comme les cancers, le train finit par dérailler, oui. Mais après un certain nombre d'étapes.
Et vous dites que, évidemment, cette lutte permanente, elle est due au hasard. Qu'est-ce qui se cache derrière cette notion de hasard, alors, puisque c'est vraiment le titre de votre livre, aussi, ce jeu du hasard?
Oui. Alors, la complexité, elle est assez évidente, et on pourra en reparler. Le hasard, c'est deux types de hasard, en fait. Les hasards de la vie, c'est les hasards de la vie intérieure et les hasards de la vie extérieure. Les hasards de la vie extérieure, ben, c'est tout ce qui peut nous arriver, en termes biologiques, bien sûr. Ce sont principalement les agents infectieux. On baigne dans les microbes. Comme on ne les voit pas, on ne s'en rend pas compte. Sauf qu'on sait bien que de temps en temps, on attrape une grippe, qu'on a un virus Ebola qui traîne, qu'il y a des pathologies comme la tuberculose qui affectent 1 milliard d'individus dans le monde, ou plus d'ailleurs, la malaria, etc. Des microbes, il y en a partout. Incidemment, on est nous aussi bourrés de microbes, parce que tous les microbes ne sont pas mauvais. Et donc, notre intestin héberge 10 puissance 14, alors c'est pas les 10 puissance 26 du Big Bang, mais enfin c'est quand même pas mal. On a plus de bactéries à l'intérieur de notre intestin qu'on a de cellules dans le corps. Et on se rend compte maintenant d'ailleurs que c'est un organe de plus, en réalité, parce que ça participe à la vie de l'organisme. Donc, juste pour dire que tous les microbes sont pas mauvais, il y en a qui sont désastreux, mais d'autres qui nous aident. Donc on vit dans des écosystèmes et nous sommes nous-mêmes un écosystème.
D'ailleurs, on apprend à redécouvrir les virus, par exemple. On peut les utiliser aussi pour nous aider. Ce ne sont pas forcément des ennemis publics numéro un.
Oui, mais enfin, quand même, les virus, ceux qu'on connaît, sont plutôt de l'ordre de l'ennemi public, sauf lorsqu'ils attaquent nos propres ennemis, bien sûr.
Voilà.
Mais enfin,
On
peut les détourner de cette façon-là. Mais enfin, le virus, c'est quand même l'ennemi de base.
Philippe Kourilski, justement, le virus dont on entend beaucoup parler en ce moment, celui qui fait la une de l'actualité, c'est le virus Ebola. On va écouter de la voix d'un homme que vous connaissez bien. C'est également un ami, Peter Piot. Vous pouvez nous le présenter? C'est lui le découvreur d'Ebola.
Il est le co-découvreur d'Ebola en 1976. Peter Piot est un Belge. Il a été le fondateur d'ONU-SIDA et maintenant il dirige la London School of Hygiene. Donc c'est un type qui, enfin, quelqu'un de très grande stature.
C'est un copain à vous, c'est pour ça.
Un copain aussi, bien sûr. On va l'entendre peut-être.
Bien sûr. Et on va l'entendre nous parler justement de sa découverte du virus Ebola.
Quand en 76 on a reçu cet échantillon d'une sœur belge qui était morte d'une maladie qu'on pensait être la fièvre jaune. Nous, on n'avait aucune idée qu'il s'agissait d'un nouveau virus, d'une épidémie si mortelle. On voyait sous le microscope électronique un virus qui ressemble plutôt à un ver, très long et énorme pour un virus, pour la taille d'un virus. On était très inquiets. On avait reçu entre-temps de l'OMS la nouvelle qu'il y avait une épidémie très mortelle au Zaïre, donc le Congo aujourd'hui. Et là, on a dû arrêter les recherches dans notre laboratoire parce qu'on n'était pas équipé pour travailler avec des virus si dangereux, et on l'a envoyé à Atlanta, aux États-Unis.
Voilà, donc la découverte vraiment du virus par Peter Piot et ses équipes donc en 1976. Ça nous entraîne sur le terrain de l'immunologie, logiquement, Philippe Kourilski.
Bien, tout à fait. Le virus Ebola, au départ, les souches qui ont circulé au départ, tuaient 90% des personnes infectées.
Oui.
Aujourd'hui, les souches qui circulent, ça a l'air d'être environ 50%.
Ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire que 50% des personnes infectées survivent.
Oui.
Enfin, il faut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Évidemment, les autres meurent.
Mais qu'est-ce qui s'est passé en 40 ans, alors ?
Il y a différentes souches qui circulent. Le virus a pu s'adapter, comme on dit, c'est-à-dire connaître un certain nombre de mutations. Mais juste vous dire que les 50% qui survivent, c'est grâce à leur système immunitaire, bien entendu. Sinon, ils ne survivraient pas. Par ailleurs, il faut vous dire aussi que c'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que au fond, quand on y réfléchit, l'intérêt biologique d'un virus, c'est pas forcément de tuer tout ce qu'il rencontre, parce que s'il tue tout ce qu'il rencontre, il a plus de quoi pousser.
Puisqu'il squatte en permanence le virus.
C'est un squat,
il a besoin d'avoir une cellule hôte. Donc.
Absolument. Et donc s'il n'a plus d'hôte, il peut plus. Et donc le fait que le virus Ebola soit moins virulent, comme on dit, veut peut-être dire qu'il aura plus de facilité à se répandre. Donc il faut faire extrêmement attention.
Oui. Comment justement, par exemple, le système immunitaire des personnes vivant en Afrique peut se transformer face à un virus comme Ebola qui maintenant donc, existe depuis 40 ans. Est-ce qu'il y a une adaptation aussi face au virus ou pas ?
Le système immunitaire est adaptatif par construction. C'est quelque chose qui est capable de s'adapter à beaucoup de situations, pas toutes, mais beaucoup de situations possibles. Et ça, si vous voulez, ça nous ramène à un thème qui m'est cher, qui revient à ce que nous disions au début, c'est le thème de la survie. Quand on parle survie, on parle évolution. Et on parle évolution des espèces. Donc, je pense que c'est très important de recadrer, resituer le système des défenses dans l'évolution des espèces. Et si on part au tout début de l'évolution des espèces, on voit que...
C'était déjà là ou pas ?
Oui, ouais. Les bactéries, qui sont les êtres les plus simples, en gros, que l'on connaisse, sont infectées par des virus. Et donc, elles doivent se défendre contre les virus. Mmh. Elles ont inventé, entre guillemets, un truc très astucieux, d'ailleurs, qui est un système de modification de l'ADN qui fait qu'elles sont relativement protégées contre les virus. Ouais. Vous passez à l'échelle au-dessus, aux êtres multicellulaires, et vous voyez se développer toutes sortes de processus. Mais en gros, toute espèce est attaquée par des agents infectieux. Les mouches sont attaquées par des bactéries et des virus aussi. Ouais. C'est d'ailleurs l'analyse de cela qui a valu à l'un de nos collègues le prix Nobel de médecine. C'est un monde qui est, encore une fois, un monde très, très abstrait, parce qu'on ne le voit pas, mais on baigne dedans.
Oui, c'est Jules Hoffmann qui a fait ses travaux sur la drosophile, précisément, et qui lui a valu le Nobel.
Le Nobel.
Ouais. Qui de la bactérie ou du virus est arrivé le premier, à votre avis ? C'est comme la poule et l'œuf, là.
On
en sait quelque chose ou pas ?
Dans la théorie des espèces, aujourd'hui, on pense plutôt que ce sont les virus qui se sont constitués les premiers, et incidemment à partir d'ARN et pas d'ADN. Alors, je précise que c'est...
S'il vous plaît, l'ARN, oui.
Oui, parce que l'ADN, c'est les gènes. Bon. Et l'ARN, c'est une version des gènes, généralement plus petite, et faite avec une substance chimique, des ribonucléotides, comme on les appelle. Donc, en gros, l'information est la même et le support chimique est un peu différent.
Jean-Paul vous pose cette question sur franceinter.fr. Philippe Korilski, quel est le rôle de défense des bactéries, justement, dans notre corps ? Comment on peut le décrire ?
Voilà une très belle question. Parce que ça nous amène à ce développement très récent de la biologie dans lequel on a pris conscience que notre habitat bactérien joue un rôle, y compris un rôle protecteur dans la santé. Il joue beaucoup de rôles. Alors qu'est-ce que c'est que notre habitat bactérien ? D'abord, je vous l'ai dit, notre intestin est bourré de bactéries. Les bactéries, on en a dans la bouche, on en a sur la peau, on en a dans les poumons, on en a dans toutes les muqueuses. On est couvert de bactéries.
Oui, est-ce qu'il y a un endroit où on n'en a pas, d'ailleurs ?
À l'intérieur du corps. À l'intérieur du corps, non. L'intérieur du corps est fait pour qu'il n'y ait pas de bactéries à l'intérieur. Et si une bactérie pénètre, elle est considérée comme pathogène, comme dangereuse. Bon. Mais si on prend les données récentes, et il y en a beaucoup, ça mériterait une émission entière, hein, sur les bactéries de l'intestin, par exemple, on se rend compte que la composition de la flore intestinale diffère selon les individus. Alors, ça a été montré de façon brillante en étudiant des jumeaux vrais. Comme ça, ils sont à peu près identiques, sauf pour ce qu'ils ont acquis pendant leur vie. Ouais. Et on prend des jumeaux obèses et non obèses, et on se rend compte que leur flore intestinale n'est pas la même. Chez la souris, on prend la flore intestinale des souris obèses, on la transplante chez des souris non obèses, et les souris non obèses deviennent obèses. Mmh. Bon. Alors ça se comprend parce qu'on peut imaginer que ce mélange de bactéries, qui est très complexe, hein, il y a des milliers d'espèces de bactéries qui vivent là-dedans, ce mélange de bactéries il métabolise les aliments d'une façon un peu différente. Donc, des mélanges de bactéries peuvent fabriquer plus de graisse que d'autres. Et à ce moment-là, avec le même bol alimentaire, un individu peut recevoir des éléments nutritifs différents. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'il y a un lien maintenant entre ce monde bactérien et des phénomènes immunitaires comme ce qu'on appelle l'inflammation, c'est-à-dire un état d'activation du système immunitaire, de telle sorte qu'on commence à avoir des corrélations parfaitement crédibles entre certaines compositions de ce microbiote, comme on l'appelle, donc ce monde bactérien, et même certaines formes de cancer.
Et ça, il y a vraiment des découvertes très importantes qui sont en train d'être réalisées hein, dans ce monde des bactéries, de la flore intestinale.
C'est un champ
extrêmement important.
Extrêmement important, ouais. en pleine explosion.
Philippe Korilski, c'est le jeu du hasard et de la complexité, ce que vous décrivez. C'est chez Odile Jacob, vous restez avec nous, on revient ensemble dans un instant avec d'autres messages des auditeurs, franceinter.fr, également Twitter avec le hashtag l'attaque. Le temps de découvrir le nouveau titre de Charles Ellie, La dernière heure.
glace ou stress à mort à cause d'une menace. Nu comme un ver dans un scanner, la pire des heures et la dernière. L'ennui vous mine, il faut que ça se termine. Besoin d'amour, de médecine. Survivant, finaliste, patient désiré, liste. Derrière une porte vitrée, dans le couloir d'une maternité. La dernière heure peut durer une éternité. Un mari sur la mer, encore on espère voir venir un frère sur un quai désert. Quand on attend des nouvelles ou la relève d'une sentinelle, attendre comme tout le monde une poignée de secondes. Le temps est malléable, incalculable. Dans la poitrine, le cœur qui bat, quand le silence remplace le brouhaha. Dans une tour, on attend les secours, mais le temps est trop court. Depuis le premier jour, on entend le tic-tac, le compte à rebours. La dernière heure. Partant vos luttes, recomptez les instants chaque minute. Vers le bilan, les yeux ouverts sur un lit de prière. Avant que la cloche ne sonne, le coup de gong. La dernière heure est la plus longue.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Le thème du dossier consacré à l'immunologie, donc avec mon invité, le biologiste Philippe Korilski, avec ce jeu du hasard et de la complexité, c'est aux éditions Odile Jacob. Qu'est-ce qu'on voit sur la couverture de votre livre, Philippe Korilski ?
Eh bien, on voit des globules rouges et des globules blancs qui se précipitent pour aller attaquer un microbe.
Voilà. Et il y a Ludovic, justement, à propos de microbes, qui nous dit ceci sur franceinter.fr. Vous semblez utiliser les mots virus, bactéries et microbes de manière interchangeable. Ces petits êtres sont-ils vraiment tous les mêmes ? Intéressant de préciser les choses quand même. Hein.
Oui, tout à fait. C'est une très bonne remarque parce qu'on a tendance à utiliser le terme de microbe pour tout ce qui est microscopique.
C'est vrai.
Voilà. Et effectivement, quand on prend un microscope et qu'on regarde, il y a énormément de variétés chez les microbes. Il y en a quand même deux grandes catégories, effectivement, ceux qui sont des cellules et ceux qui sont des virus. Et les virus attaquent les cellules. Et donc, comme je l'ai dit, il y en a à toutes les échelles de l'évolution. Et donc, quand on se place dans la perspective de l'évolution des espèces, on voit qu'il y a des microbes partout. Et donc, en fait, il y a une superposition dans l'évolution. C'est-à-dire que vous avez l'évolution des espèces avec les prédateurs et les proies. Alors, voilà, tel insecte mange telle mouche ou je ne sais pas quoi. Mais vous avez cette deuxième catégorie de l'évolution qui est liée au fait qu'il y a des microbes partout qui forcent des évolutions dans un certain nombre d'espèces. Pour dire les choses autrement, l'homme est un prédateur formidable. Alors l'homme, on peut dire, c'est par
exemple... C'est le premier des prédateurs, probablement. Hein.
Bah, c'est notamment le prédateur du poulet, parce que je ne sais pas combien on mange de poulet par an, mais sur la planète,
c'est vrai.
On est un sacré prédateur de poulet. Bon. Qui est le prédateur de l'homme dans la Vulgate qu'on apprend quand on est enfant? C'est le lion. Le lion bouffe l'homme.
Donc. Oui.
Bon.
Il se défend bien l'homme face au lion quand même.
Oui, maintenant il a prêt à se défendre parce qu'il y a des fusils. Mais avant, voilà. Mais n'empêche que ce n'est pas vrai du tout. Le vrai prédateur de l'homme, ce sont les microbes. Les agents pathogènes qui l'infectent absolument sans arrêt, les virus donc, et des bactéries ou des parasites qui l'infectent. Alors les virus, on les a cités, hein, Ebola, la grippe, etc. Et les bactéries, la tuberculose, les parasites, la malaria, etc. Il y en a plein. Et juste un chiffre qui peut intéresser les auditeurs. En gros, on découvre une nouvelle saloperie tous les 7 à 8 mois. Peut-être 6 à mesure qu'on en...
Voilà, et on découvre où cette saloperie alors? Dans la nature?
Ah ben dans la nature.
Où,
dans la nature. Dans des écosystèmes, on découvre de nouveaux virus. On apprend maintenant pardon, que les chauves-souris sont des vecteurs, non seulement d'Ebola, non seulement du virus de la rage, mais plein d'autres choses.
Et, mais est-ce qu'on n'a pas notre part de responsabilité? C'est-à-dire qu'on dit, voilà, ce sont des saloperies. Mais les virus, ils vivent aussi dans leur écosystème, dans les forêts tropicales par exemple, très très bien, jusqu'au jour où l'homme aussi va favoriser la rencontre quand même, non?
Ah, c'est absolument exact. Les bouleversements écologiques provoqués par l'homme, par exemple la déforestation...
Ça a des effets catastrophiques sur les virus. Hein.
Ça a des effets. Alors, il peut être catastrophique ou bénéfique, mais ça a des effets. Et notamment, on a bien vu en Amazonie, ça déplace les rongeurs. Alors, les rongeurs sont eux-mêmes porteurs d'un certain nombre de choses. Et du coup, il y a plus de rongeurs dans les villes. Et du coup, il y a plus de maladies. Voilà. Donc, tout ça est en équilibre. Et quand on change les équilibres, bien sûr, il se passe des choses.
Philippe Korilski, au cours de l'évolution précisément, est-ce qu'il y a différentes formes d'immunité qui se sont imposées ou pas?
Alors, au cours de l'évolution, oui, il y a deux grands types d'évolution avec une sorte d'innovation de rupture qui s'est produite il n'y a pas très très longtemps finalement. Tous les organismes que nous appelons primitifs, mais qui vivent encore aujourd'hui et qui vivent très bien, possèdent ce qu'on appelle l'immunité innée. C'est-à-dire qu'ils ont des mécanismes de défense qui leur permettent de repérer leurs agents infectieux habituels, entre guillemets, et puis ils se débrouillent pour les détruire.
Comment ils font pour les repérer?
Ben, par exemple, vous avez ce qu'on appelle les macrophages. Alors en grec, c'est ce qui mange, des cellules qui mangent des bactéries, par exemple. Ils sont porteurs de récepteurs, comme on appelle, c'est-à-dire de molécules qui sont capables de reconnaître certains sucres présents sur les agents infectieux. Et une fois qu'ils les ont repérés,
ils les mangent.
Bon. Ils les internalisent et ils les digèrent.
Donc ça, c'est l'immunité innée.
Ça, c'est ça l'un des mécanismes d'immunité innée. Et puis, il s'est passé quelque chose d'étrange, d'improbable, d'hautement improbable. C'est que dans une certaine étape de l'évolution, qui est située bizarrement entre les poissons avec mâchoire et les poissons sans mâchoire, est née ce qu'on appelle l'immunité adaptative. Et le public sait ce que sont les anticorps. Bon. Donc, ça date d'à peu près là. J'ai dit improbable parce que c'est une innovation qui est en fait une triple innovation qui demandait l'émergence de plusieurs systèmes en même temps et donc ça paraît très important. Mais le point clé, c'est que cette innovation donc de rupture, parce que c'est un changement radical, est censée fournir une couverture universelle. En d'autres termes, si je parle un peu de nous, pour prendre l'exemple de l'homme, pour ne pas vous parler des mammifères, de la souris, ce que vous voulez. Mais pour prendre l'exemple de l'homme, nous fabriquons des centaines de millions d'anticorps différents qui, en gros, ils sont fabriqués au hasard. Ils saturent l'espace des formes. Ça veut dire que quand on prend toutes les formes qui existent dans le monde, on trouve à peu près toujours un anticorps qui est capable de reconnaître la forme en question. C'est incroyable. C'est une innovation absolument inouïe. Pourquoi cette innovation s'est produite au moment des poissons avec mâchoire?
Oui, c'est ça, parce que c'est lié à vraiment la mâchoire, c'est ça?
Ben, on n'en sait rien. Je veux dire, c'est une coïncidence qu'on ne sait pas interpréter.
En tout cas, on observait que c'était vraiment...
L'une des idées qui a été proposée, mais il y a zéro preuve à ma connaissance, c'est que le changement d'alimentation lié aux mâchoires a fait qu'il fallait se défendre mieux. Je veux dire, on n'en sait rien.
Pourquoi vous parlez de la lamproie, tiens, un moment, avec sa mâchoire extrêmement bizarre, parce qu'il n'y a pas de mâchoire vraiment chez la lamproie. On la connaît à la bordelaise avec du poireau et du vin rouge, mais dans les laboratoires des scientifiques, pourquoi ça intéresse justement par rapport à l'immunologie?
Ça, c'est formidable. Parce que la lamproie, d'abord, vous avez raison, c'est à peu près comestible.
Oui. Ah oui.
C'est un animal horrible.
Assez affreux.
C'est un tube
digestif. Il faut aller tout de suite sur Google voir une lamproie. C'est une espèce de roue avec des dents, en fait,
oui,
la
bouche.
Oui, c'est
un tube digestif.
C'est affreux.
Voilà, c'est un tube digestif, ça bouffe et c'est tout ce que ça fait. Bon. Mais ce qui se passe, c'est que chez la lamproie, on a découvert un équivalent de l'immunité adaptative chez l'homme avec des anticorps et tout ça, fondé sur une chimie totalement différente. Et ça, c'est vraiment incroyable, parce que, comme je vous l'ai dit, l'émergence de ce système est tellement singulière qu'on croyait que c'était vraiment totalement improbable. Mmh. Donc que ça s'est produit qu'une seule fois. Et là, on s'apprend que ça s'est produit une autre fois sous une forme différente. Ce qui veut dire que, en termes un peu plus philosophiques, si vous voulez, l'espace des possibles en biologie est tellement grand que même ce qui nous paraît improbable n'est peut-être pas si improbable.
On va écouter ensemble, Philippe Kurilski, un extrait de l'épisode de la saison 7 de Dr House. Vous connaissez cette série très certainement, basée sur vraiment la science. Il y a beaucoup d'éléments très intéressants. Et on écoute cet extrait pour parler du cancer avec vous.
Des cancers du sein dans la famille?
Sa mère en est morte.
Cérébral sans être cérébral. Fallait y penser, hein? Mais si c'est un cancer du sein, quel rapport avec son cerveau?
Il y a des similarités de type moléculaire entre les cellules du cerveau et celles d'une tumeur. Le syndrome paranéoplasique perturbe et dévie les anticorps. Ils finissent par attaquer le cerveau, au lieu de la tumeur.
Donc, s'il y a bel et bien une tumeur, vous ferez quoi?
Nous traiterons le problème sous-jacent. S'il n'y a plus de tumeur à attaquer, les anticorps ne pourront plus la confondre avec le cerveau.
Si la tumeur est soignable.
C'est ça.
Alors, Philippe Kurilski, qu'est-ce qui se passe justement dans le cas du cancer avec notre système immunitaire?
Beaucoup de choses, mais permettez-moi de revenir juste une seconde en arrière sur la question suivante. Comment est-ce qu'un système immunitaire, le système immunitaire de l'homme, pour parler de lui, détecte des agents infectieux? En gros, il y a deux manières de faire. Soit il détecte l'objet étranger en tant que tel, soit il repère les anomalies de fonctionnement qui sont induites par la présence de l'agent infectieux. Donc c'est clair que lorsqu'un virus détruit des cellules, c'est anormal de voir des déchets de cellules se balader à droite à gauche. Donc le système immunitaire, il est fait pour reconnaître tout ça, mais y compris les anomalies. Mais à partir du moment où vous avez quelque chose qui reconnaît des anomalies, il est assez simple d'imaginer que ça reconnaît aussi les anomalies de l'intérieur, c'est-à-dire des anomalies provoquées par des dysfonctionnements internes
qui viennent de l'organisme, du corps humain lui-même.
Alors ça nous ramène à la question de la complexité, si vous voulez, parce que tous les systèmes complexes, et nous sommes un système extrêmement complexe, ils font des erreurs. Et les erreurs sont corrigées sans arrêt par d'autres systèmes qui ajoutent eux-mêmes à la complexité. Bon. Mais ceci étant, le système qui détecte les erreurs est en réalité applicable et s'applique effectivement à la détection des dysfonctionnements internes, dont font partie les cancers. Donc je reviens sur les cancers. Les cancers sont des maladies. D'abord, c'est un ensemble de maladies. Ce n'est pas le cancer. Il y a plein de cancers. Et en gros, presque tous les types cellulaires, et nous en avons plusieurs centaines dans l'organisme, sont capables de donner naissance à des cancers. Okay. Mais donc, ces cancers apparaissent par deux catégories de processus. La première, c'est des mutations qui font que des cellules commencent à échapper à ce qui, notamment, règle leur division cellulaire. Et on sait bien que les tumeurs, c'est des cellules qui prolifèrent hors de contrôle. Et la deuxième phase, c'est que après un certain temps, ces anomalies commencent à alerter le système immunitaire qui se mobilise contre. Donc on a bien ces deux phases, une première qui touche à des mutations et une deuxième qui est l'action de défense.
Mais il y a un moment où la mobilisation n'est plus suffisante.
Notre corps est aussi un écosystème et à l'intérieur de cet écosystème, il y a aussi des processus de sélection darwinienne. En gros, si vous voulez, dans le vaste monde, une bactérie cherche à se développer et devient pathogène, à l'intérieur, l'équivalent, c'est une cellule qui veut se développer, qui devient pathogène et qui devient cancéreuse.
Simon demande, est-ce qu'il y a une hérédité immunitaire d'une génération à l'autre? Est-ce qu'on transmet
Un petit peu. Il y a quelques éléments qui sont transmis, et notamment par le célèbre système d'histocompatibilité, terme savant, qui valut le prix Nobel à Jean Dausset, qu'on connaît sous le nom de système HLA.
Qu'est-ce qui reste à découvrir dans ce domaine du système immunitaire qu'on ne connaît pas encore, Philippe Kourelski ?
Ouf !
C'est un vaste monde, là aussi, hein ?
Énormément de choses.
Ouais.
Énormément de choses. Je peux vous prendre l'exemple de la vaccination. On peut prendre l'exemple du sida, si vous voulez, parce que on ne sait pas contrôler le sida autrement, bien sûr, que par la trithérapie, qui est un immense succès de la pharmacologie, si vous voulez, mais c'est pas un succès de la vaccination. En fait, la vaccination contre le sida, pour l'instant, ça marche pas. Donc c'est un grand échec, et ce virus perturbe le système immunitaire, et en fait, il arrive à surmonter le système immunitaire de deux manières. D'abord parce qu'il mute à tout, et donc il bouge énormément, et deuxièmement parce qu'il attaque le système immunitaire au cœur. Donc il détruit lui-même le système immunitaire. Alors il est tellement variable qu'il y a tellement de variants dans l'organisme que quand le système immunitaire arrive à en contrôler un, il y en a d'autres qui apparaissent, et ainsi de suite, et donc on n'y arrive plus.
Voilà, pour découvrir en tout cas ce monde de l'immunologie, avec le système immunitaire des êtres humains, mais pas seulement, c'est tout le monde vivant dont vous parlez dans ce livre. Il faut lire « Le jeu du hasard et de la complexité », c'est aux éditions Odile Jacob, et vous avez fait un effort tout particulier justement pour vulgariser votre discipline et la faire partager au plus grand nombre. Merci beaucoup Philippe Kourelski d'être venu cet après-midi dans La Tête au Carré, et merci aux auditeurs pour les questions. Dans un instant, le quiz de La Tête au Carré. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire si vous souhaitez jouer dans les prochains jours sur franceinter.fr.
on, baby. I came here with my funk in my hand.
I love it. I love it. I think it's good.
Man Funk avec Guts à l'instant sur France Inter. Les 10 dernières minutes de l'émission sont consacrées à notre quiz scientifique et je salue ma copilote Florence Porcel.
Salutations à vous Mathieu.
Bonjour Florence et je vous présente aujourd'hui Françoise et Benjamin qui sont avec nous en ligne et qui trépignent de jouer avec nous dans un instant. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Françoise et Benjamin.
Bonjour Florence.
Bonjour Mathieu.
Bienvenue Françoise. Bonjour, vous êtes à Paris. Bonjour, Françoise, c'est ça? Vous habitez à Paris?
Voilà, j'habite à Paris, je suis dans le sud de la France où il fait un temps magnifique.
Mais vous êtes en vacances, Françoise ?
Ah, tout le temps maintenant.
Ah, vous êtes retraitée peut-être ?
Voilà, une jeune retraitée.
Voilà, et vous en profitez bien. Quant à Benjamin, ce n'est pas du tout le cas, je crois. Vous êtes à Reims et vous êtes en pleine période d'études, là, c'est ça, hein ?
Exactement, je suis en 3e année de licence d'histoire.
Qu'est-ce que vous étudiez exactement dans ce domaine ?
Le discours de sur l'histoire universelle de Bossuet.
Très bien.
Voilà. D'accord.
En tout cas, Françoise et Benjamin, ce que je peux vous dire, c'est que nous jouons avec les éditions Flammarion, qui sont partenaires du quiz.
Oui, et nous jouons pour vous offrir le beau livre Science année après année. Et c'est évidemment le joueur qui aura accumulé le plus de points, qui remportera.
Rien n'est fait, et c'est peut-être Françoise qui remportera ce livre à l'issue de notre jeu. C'est ce que nous allons voir. On démarre avec la question d'actualité. Avec cette question que je vous pose au sujet d'une Australienne, vous en avez peut-être entendu parler très récemment, qui a décidé de faire opérer son animal de compagnie atteint d'une tumeur au cerveau. Elle ne voulait surtout pas le faire euthanasier. De quel type d'animal de compagnie s'agit-il? Vous avez 30 secondes. On a vu même la photo de l'animal.
Oui, oui, oui.
C'était assez impressionnant et plutôt inattendu d'ailleurs.
Inattendu, oui.
Wallaby?
Non.
Un kangourou?
Non, ça n'a rien à voir avec l'Australie en fait. Vous en avez peut-être même un chez vous.
Peut-être.
Qui sait?
Un animal de compagnie assez courant.
Oui.
Un cochon d'Inde?
Non. Assez silencieux en général, ça fait pas trop de bruit.
Non, effectivement.
Non, non plus. Et c'est vrai qu'il a fait la une des journaux.
Il a fait la une des journaux,
oui,
parce que c'était un peu insolite aussi.
Et la tumeur était très impressionnante. Et il a été sauvé. C'était un poisson rouge, Françoise et Benjamin, figurez-vous.
Ah, mais d'accord.
Voilà, voilà, l'opération était délicate, voilà. Hein, du coup. Mais le véritaire était expérimenté et tout s'est très bien passé. Alors Georges, c'est son nom,
ah oui,
s'est réveillé après une anesthésie de 30 minutes et il se porte très bien. Il pourra sans doute garder des souvenirs de cette intervention pendant 3 mois, puisque c'est la durée maximale de la mémoire d'un poisson rouge.
Oui, donc ça n'est pas seulement le tour du bocal, c'est beaucoup,
non,
plus, long
c'est beaucoup plus long
que ça. Et un poisson rouge peut vivre entre 25 et 30 ans.
Oui,
hein.
Oui, oui.
Donc ça valait le coup peut-être de le faire opérer. Les questions de rapidité, Françoise et Benjamin, vous connaissez le principe maintenant. Avec 7 questions que je vais vous poser, qui sont dans l'ordre croissant de difficulté, on vous offre 1 minute 30 pour répondre à toutes ces questions. Et puis on peut passer à une autre question si on ne peut pas y répondre.
N'hésitez pas à le dire.
On lance le chrono, c'est parti pour 1 minute 30. Première question, comment s'appelle le petit du sanglier, Françoise et Benjamin?
Marcassin.
Le marcassin, bravo. Dans quel ouvrage René Descartes a-t-il développé une méthode scientifique?
Le discours de la méthode.
Bravo Benjamin. Qui a démontré la rotation de la Terre grâce à un pendule?
Foucault.
Léon Foucault, bonne réponse de Françoise. Comment se nomme la plus grosse artère de notre organisme, celle qui part du ventre?
L'aorte.
Bonne réponse, mais je crois que c'était
Françoise
qui a répondu la première. Comment obtient-on la force que subit un corps plongé dans un fluide soumis à un champ de gravité?
Archimède.
La poussée d'Archimède, Françoise en vous la corde. Comment appelle-t-on les différentes versions d'un gène? C'est la 6e question, elle est un petit peu plus difficile.
Les mitoses?
Non.
Non, pas les mitoses.
Le génome?
Non plus. On passe à la 7e question, on y reviendra si vous voulez.
Oui.
Comment s'appelle la pathologie consistant à simuler une maladie ou un traumatisme pour attirer l'attention?
En psychologie cette fois.
Le placebo?
Non.
Non.
Non, 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 non. La pathologie qui consiste à simuler une maladie.
Aucune idée.
Allez, on revient à la 6e question. Comment appelle-t-on les différentes versions d'un gène?
Pas d'idée.
Non. Et cette pathologie qui consiste à simuler une maladie ou un traumatisme pour attirer l'attention, est-ce que ça vous dit quelque chose? Il y a une histoire de...
Pathologie.
Non, non, non. Il y a un baron célèbre
oui,
qui
voilà,
a donné
un baron
son nom.
Allemand.
Si je vous dis inspiré d'un baron du 18e siècle.
Sur le canon, j'ai l'impression, ça me revient après.
Oui, oui.
Eh oui.
Oui, il s'agissait du syndrome de Munchausen.
D'accord.
Voilà, cette pathologie donc, qui consiste à simuler une maladie. Et puis, donc, cette 6e question à laquelle non plus vous n'avez pas pu répondre, comment appelle-t-on les différentes versions d'un gène?
Eh ben, c'était les allèles.
Les allèles, oui.
Voilà, c'est ce qui détermine, par exemple, la couleur des yeux.
Ouais. Alors Florence, on fait le total des points pour savoir qui de Françoise ou Benjamin a de l'avance.
Eh bien Françoise a beaucoup d'avance avec 20 points et Benjamin 5 pour le moment.
Bon, peut-être que vous allez vous rattraper sur ce mot mystère. Benjamin, est-ce que vous voulez commencer ?
Je peux commencer, il n'y a pas de
allez,
problème.
Allez, 45 secondes donc pour faire découvrir à Françoise le mot que nous vous avons transmis hors antenne il y a quelques minutes à peine. C'est parti.
Alors, c'est un genre d'hominidé aujourd'hui disparu. Ils ont vécu environ 4,5 millions et 1 million d'années avant notre ère. On a retrouvé des ossements, évidemment, dont le plus célèbre, je pense, c'est ceux de Lucie.
Voilà. Alors, comment s'appelle ce genre d'hominidé, Françoise ? C'est la question que vous pose Benjamin.
Le mot sapiens ?
Non.
Avant.
C'était avant nous. Alors, il y a même plusieurs millions d'années. Non, c'était avant
encore.
Oui. Lucie, Toumaï, on en a parlé aussi dans l'émission, font partie de la famille des Australopithèques.
Voilà, oui.
Aïe.
C'est toujours plus facile quand on le lit.
Benjamin a réussi à vous coller.
Mais Benjamin est étudiant en histoire aussi.
On va voir ce que donne cette nouvelle question dans votre direction, justement, Benjamin. Et c'est Françoise qui vous la pose. 45 secondes. Françoise, c'est parti.
Alors, c'est une maladie liée à l'obstruction d'une artère ou à une exposition liée à un froid intense. Louis XIV et Lully en sont morts. Ça, c'est pour le côté histoire.
Ah, voilà. Petit cadeau pour Benjamin.
Voilà.
Alors ?
Alors, de quoi est mort Louis XIV ?
Est-ce que vous avez d'autres éléments, Françoise, à donner à Benjamin ?
La gangrène.
Bravo.
Voilà, bravo.
Hey ! Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie, Benjamin ?
Eh bien, la mort de Louis XIV, figurez-vous.
C'est vrai ?
Comme quoi, étudier en histoire, ça aide.
Voilà, ouais, et vous avez raison de continuer. Et
Bossuet, c'était aussi l'époque de Louis XIV. Donc, vous voyez, finalement, je n'étais pas tant en pause que ça.
Bravo à vous. Ça vous fait combien de points, ça, du coup ?
Eh bien, ça fait 20 points en tout pour Françoise et 15 pour Benjamin. C'est donc Françoise qui remporte le jeu.
Voilà, ça n'était pas suffisant, hélas, pour Benjamin. Françoise, on vous félicite et vous remportez un livre des éditions Flammarion.
Et oui, science année après année, qui sort d'ailleurs aujourd'hui.
Voilà.
Merci beaucoup, Françoise. Florence. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup, Benjamin aussi. Et puis, merci à France Inter pour la qualité de vos émissions. Voilà.
Merci infiniment. Merci. Pour ceux qui souhaitent s'inscrire, franceinter.fr et bonnes vacances à vous, Françoise. Profitez-en bien. Et Benjamin, bon courage.
Bon courage.
À bientôt.
Merci bien.
Merci
au revoir.
Au revoir.